Nous voici rendus au terme du discours sur le pain de vie. Et l'heure de la décision a sonné. En effet, il faut se décider, il faut effectuer un choix. Il faut choisir soit de rester et de servir le Seigneur, ou alors de s'en aller très loin du Seigneur. Et bien sûr, chaque choix implique, n'est-ce pas, des conséquences. Rester auprès du Seigneur pour le servir conduit inéluctablement à avoir plus que jamais la vie éternelle. Par contre, s'éloigner du Seigneur, refuser de le suivre, refuser de le servir, conduit aussi inéluctablement à la géhenne, à la mort éternelle. Donc la question nous est posée aujourd'hui, qui voulons-nous servir véritablement? Et à travers les textes de ce jour, nous verrons, n'est-ce pas, ce que nous avons à faire pour que notre choix soit définitif, pour que tous ensemble, nous options pour le service du Seigneur. Et je voudrais, avant cette méditation, vous rassurer d'un fait. Dimanche dernier, il m'a été rapporté par certains chrétiens que j'avais tendance à aller très vite dans mon propos. Je parle rapidement. C'est vrai, c'est une déformation naturelle. Et la conséquence est que certains n'arrivent pas à comprendre parfaitement ce que j'ai à dire. Et donc, je vous rassure qu'aujourd'hui, je ferai des efforts d'aller un peu plus posément. C'est vrai que la sonne peut-être n'est pas fameuse, mais j'irai, n'est-ce pas, posément. Ce ne sera pas évident pour moi, mais pour que vous puissiez comprendre, je suis obligé de le faire. Et donc, je le disais, il est question d'effectuer un choix, de choisir soit de servir le Seigneur, soit d'aller loin du Seigneur. Et tout commence au niveau de la première lecture, où déjà le peuple d'Israël est rendu sur la terre promise. Mais là, Josué constate qu'il y a, n'est-ce pas, comme une déviance. Il y a certains qui sont amenés, il y a certains qui se mettent à servir des dieux autres, des divinités, des dieux étrangers. Et donc, pour recentrer en quelque sorte le débat, Josué les rassemble tous au sommet de la montagne. Notez ici qu'il est question du mont Sichem, une montagne très, très symbolique pour les chrétiens. C'est là que Moïse rencontra le Seigneur, c'est là qu'Abraham offra le sacrifice, et c'est là que se déroule en général la rencontre avec le Seigneur. Et c'est donc au sommet de cette montagne, du mont Sichem, que Josué demande au peuple de dire clairement qui il veut servir. Et dont le peuple, heureusement, à la fin, ne manque pas de dire que nous, nous voulons servir le Seigneur à la suite de Josué. Et il commence par rappeler ce que le Seigneur a fait pour eux, toutes les merveilles que le Seigneur a faites pour eux, entre autres la sortie du pays d'Égypte. Et il a veillé sur eux, il a veillé sur nous, dirait-on aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Et donc, disent les peuples israélites, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur. Et ça, c'était une très bonne chose, c'était un très bon choix. Et c'est le même choix que nous sommes appelés à faire au niveau de l'Évangile. Pendant 5 dimanches, nous avons eu le discours sur le pain de vie. Tout est parti de cette multiplication des pains à Capharnaüm. Et après celle-ci, le peuple, n'est-ce pas, s'est mis à la suite du Seigneur, s'est mis à la suite de Jésus-Christ. Et lui, il a donc profité de cet instant pour donner, n'est-ce pas, un enseignement sur le pain de vie. Mais plus il allait en profondeur dans cet enseignement, moins il était compris de ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, c'est la phase terminale où certains trouvent que ces paroles sont dures. Elles sont dures, ces paroles. Comment cet homme peut-il dire qu'il donnera sa chair à manger et son sang comme boisson? Eh bien, c'est très dur. Nous ne pouvons pas continuer à l'écouter. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec lui. Et donc, certains mettent un terme à leur suite auprès du Seigneur. Ils disent, puisque ces paroles sont dures, autant mieux nous arrêter ici, autant mieux, n'est-ce pas, trouver un autre chemin. Ils s'éloignent du Seigneur. Et notons ici que le Seigneur ne fait rien pour les retenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il respecte leur liberté. Le Seigneur respecte la liberté humaine. Il n'est pas là pour nous obliger à faire quoi que ce soit. Il nous propose tout simplement d'avoir la vie éternelle en nous mettant à sa suite. Et raison pour laquelle il se tourne alors vers les apôtres en leur posant cette question. Voulez-vous partir, vous aussi? Eh bien, Saint Jean en parlant de disciples, voulait nous faire comprendre que, en fait, c'était comme des admirateurs, des gens qui se levaient, qui se laissaient emporter par le miracle qui avait été fait par la multiplication du pain. Ils ont bien mangé et donc ils ont l'espoir que, à la suite, le Seigneur fera encore d'autres miracles pour eux. Donc ils n'arrivent pas à s'élever, ils restent sur la sphère humaine. Pourtant, Jésus voudrait que nous puissions nous élever, nous puissions quitter la sphère humaine pour, n'est-ce pas, entrer dans les réalités célestes. Et donc, à cette question, voulez-vous partir vous aussi? Nous avons la très belle confession de Saint-Pierre. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, nous, nous croyons que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et donc, ils sont restés les apôtres, et aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, chrétiennes et chrétiens. Il faudra que nous puissions, jour après jour, renouveler aussi notre acte de foi au Seigneur. À qui irais-je, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et bien sûr, n'allons pas croire que cela sera fait de façon facile. Il n'est pas toujours facile de suivre le Seigneur. Il y a plusieurs contraintes. J'allais même dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout facile d'être un chrétien dans l'Église catholique. Parce qu'à certains moments, le discours de l'Église, qui bien sûr va à la suite du Christ, peut être dur. Il peut nous contredire, il peut nous contrarier, nous qui sommes chrétiens. Regardons un peu ce qui s'est passé en Argentine, où, après le refus par le Sénat de promulguer la loi pour l'IVG, certains chrétiens sont arrivés à demander, n'est-ce pas, à être débaptisés. Comme quoi, ils sont semblables à ceux qui ont dit « elles sont dures, ces paroles, ne pourront pas continuer à les suivre aujourd'hui ». Et ils sont nombreux qui, parmi nous, ont reçu le baptême, mais à la longue, on finit par dire « elles sont dures, les paroles, ou alors les lois que nous propose de suivre l'Église catholique ». Et bien sûr, je le dis encore, le Seigneur respecte notre liberté. Il voudrait pourtant que nous puissions revenir à de meilleurs sentiments, que nous puissions revenir vers lui pour, au terme de tout, avoir la vie éternelle. Et donc, si nous demeurons auprès du Seigneur, si nous restons avec lui, si nous écoutons sa parole et surtout, si nous la mettons en pratique, nous aurons, au terme de tout, la vie éternelle. Et c'est dans ce que Saint Paul nous propose dans la deuxième lecture, où ici, il nous montre, n'est-ce pas, ce que les hommes et les femmes ont à faire, où il fait un exposé sur le sacrement du mariage. Il commence par annoncer le socialement correct, où il demande, n'est-ce pas, aux femmes d'être soumises à leur mari. Vous, les femmes, soyez soumises à votre époux, à votre mari. Là, c'est correct, il n'y a rien à redire. Et là, bien sûr, tout le peuple est d'accord avec Saint Paul. Mais là où il y a un dépassement, là où il y a un ajout, c'est lorsqu'il commence à parler des hommes. Et vous, les hommes, aimez votre femme. Et donc, on peut se rendre compte que la tâche des hommes est plus ardue, est plus difficile que celle de la femme. Si la femme est appelée à être soumise à son mari, l'homme, lui, est plus que jamais appelé à aimer sa femme. Et si on s'arrête au niveau du premier point, où la femme est appelée à être soumise à son mari, on peut, n'est-ce pas, s'ériger en faux contre ceux qui, partant de ce verset, trouvent, n'est-ce pas, en la femme une esclave. La femme, n'est-ce pas, est conçue comme une esclave, comme celle qui doit tout faire à la maison. Et malheureusement, c'est ça qu'on retrouve dans notre contexte africain, où certains font allusion à ce verset pour dire, mon père, n'est-ce pas, la Bible même demande à la femme d'être soumise à son mari, et donc elle n'a rien à dire, c'est moi qui décide, c'est moi le chef de famille. Oui, c'est l'homme le chef de famille, mais la femme a aussi la même dignité que l'homme. Donc il n'est pas question ici d'avoir une relation comme supérieure, inférieure. C'est la relation entre égaux, parce que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Il les a créés hommes et femmes. Ils sont donc appelés à vivre ensemble, ils sont surtout appelés à marcher ensemble, à dialoguer, pour plus tard entrer aussi dans la vie éternelle. Et pour mieux comprendre cela, remontons même dans les origines, dans la Genèse, où nous est donné, n'est-ce pas, le récit de la création de l'homme et de la femme. Adam est créé, d'accord, mais il n'a pas un être qui lui soit ressemblant. Personne ne lui ressemble dans la créature. Et Dieu, ayant constaté cette solitude d'Adam, il le plonge dans un sommeil profond et de sa côte, il va façonner la femme. Au terme de tout, ce sera la première fois que l'homme prendra la parole dans la Bible. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et quand moi, personnellement, il m'arrive de méditer sur ce verset, je me suis posé quelques questions. Mais tiens, pourquoi Dieu n'a-t-il pris que la côte de l'homme pour façonner la femme? Il pourrait bien prendre une partie au niveau de ses pieds. Pourquoi il aurait pu le faire? Il est Dieu. Il pourrait aussi prendre une partie au niveau de la tête pour façonner la femme. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, Dieu n'a pas pris une partie au niveau des pieds pour pas que l'homme marche sur la femme. Il n'a pas pris une partie au niveau de la tête pour pas que la femme se prenne la tête. Mais il a pris une partie dans le côté pour que l'homme et la femme marchent côte à côte. Ils sont appelés à marcher ensemble, marchant côte à côte. Ils sont sûrs d'arriver plus que jamais dans la vie éternelle. Malheureusement, aujourd'hui, le mariage est mal. Le mariage est mis à mal parce que beaucoup n'arrivent plus à le vivre comme un mystère, comme un sacrement, comme quelque chose qui a été créé par Dieu et donné aux hommes. Le mariage aujourd'hui est bafoué. Beaucoup se marient pour divorcer le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on y va avec une certaine vision. On y va parce qu'on a certains intérêts à réaliser. Que non, le mariage, nous rappelle Saint Paul, est un mystère. Pas n'importe lequel des mystères, c'est un mystère très grand parce qu'il nous rappelle l'union entre Dieu et les hommes. Et si le mariage va mal aujourd'hui, c'est parce que beaucoup manquent, n'est-ce pas, de recettes. Beaucoup n'ont pas une recette pour faire en sorte que leur mariage puisse durer dans l'éternité. Raison pour laquelle je me propose en ce jour, chers fidèles du Christ, de vous donner, n'est-ce pas, quelques astuces qui feront en sorte que votre mariage puisse encore tenir. Et même, commençons par la notion même, mariage. Regardons un peu cette notion, ce terme, le mariage. Il y a sept lettres qui reviennent là-dedans. Et donc, ces lettres peuvent constituer pour vous qui êtes mariés des colonnes qui feront en sorte que votre mariage soit plus que jamais protégé, votre mariage arrive jusqu'au bout. Et donc, prenons ces lettres une à une, l'une après l'autre. La lettre M, la première, la lettre M. Le M ici nous renvoie à quoi? Nous renvoie à la mort. N'ayez pas peur, pas la mort physique, mais la mort en soi-même, où chacun des conjoints est appelé à mourir en lui-même. Chacun vient, n'est-ce pas, d'une famille. Chacun a été éduqué de façon différente. Et du moment où vous vous retrouvez pour mener ensemble une vie, pour être unis, pour vous marier, il faut que vous laissiez mourir en vous vos intérêts personnels, vos égoïsmes, pour ne rechercher que le bien commun, le bien de tous. Et donc, que l'orgueil puisse être détruit en moi, lorsque l'orgueil est détruit, eh bien, ce sera le temps pour notre mariage de prospérer, de grandir. Dans la première lettre, le M, c'est la mort en soi-même, la mort de tout ce qui habite en nous comme égoïsme, comme intérêt individuel. La deuxième lettre, c'est quoi? C'est le A. Le A qui renvoie ici à l'amour. L'amour éternel, l'amour sincère, l'amour vrai. Un amour qui n'a pas de limite, un amour qui n'a pas de fin et surtout un amour qui ne se focalise pas sur l'aspect extérieur. J'aime, n'est-ce pas, cet homme parce qu'il a des yeux bleus, il est un bel homme, il a de très beaux cheveux, c'est pour ça que je l'aime. J'aime cette femme parce qu'elle est très belle et donc je m'arrête sur l'aspect simplement extérieur. Que non, l'amour vrai, l'amour sincère doit être logé au niveau de l'âme. Je dois aimer l'autre et surtout au niveau de l'âme, de sorte que mon amour ne connaîtra pas de limite, mon amour n'aura pas d'âge. Même si nous avons plus de l'âge, même si le corps de l'autre devient ridé, même si l'autre est déformé, tous les cheveux sont déjà blancs sur sa tête, mon amour pour lui jamais ne vieillira, jamais ne connaîtra la vieillesse. Pourquoi? Parce que c'est un amour éternel, c'est un amour sincère, un amour vrai. Donc ne pas avoir peur, même dans la vieillesse, d'exprimer son amour à son conjoint, d'exprimer son amour à sa conjointe. Ne vous dites jamais que nous sommes déjà vieux pour ça. On n'est jamais assez vieux pour aimer. La troisième lettre, c'est quoi? C'est le R, la révélation. la révélation, où chacun des conjoints est appelé à se révéler à l'autre. Je viens, n'est-ce pas, avec mes habitudes. Je viens avec ma façon de faire, ma façon de voir. Et l'autre aussi, mon conjoint ou ma conjointe, vient vers moi avec ses habitudes et sa façon de voir. Et donc, question plus que jamais de me révéler entièrement et totalement à l'autre. Et ne pas se dire, ah ben mais tiens, il faut, n'est-ce pas, que je garde une partie pour moi-même parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Et voilà, n'est-ce pas, comment on a comme une chambre secrète dans notre mariage. Que non, la révélation doit être totale. Que je me présente à l'autre tel que je suis, que l'autre se présente à moi tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et ainsi donc, il n'y a plus de secret, il n'y aura plus de limites. Et ça permet aussi de comprendre que il ne faut jamais vous dire que vous connaissez parfaitement votre épouse, que vous connaissez parfaitement votre mari. Si vous vous dites cela, eh bien vous allez vous braquer et vous plongerez dans la routine. Il faut toujours, jour après jour, vous ouvrir à la découverte de l'autre. Il faut toujours, après jour, vous émerveiller devant la belle créature qu'est l'autre, la révélation. Et l'autre lettre, c'est quoi? C'est le I. Qui renvoie ici à l'intérêt commun, toujours œuvrer pour que l'intérêt du couple prime sur mon intérêt personnel et surtout que notre famille puisse aller de l'avant. Et l'autre lettre, c'est le A qui renvoie ici à l'allégresse. L'allégresse, il faut être joyeux, il faut être content d'avoir tel pour époux, d'avoir tel pour épouse. De sorte que lorsque je suis loin de mon époux, lorsque je suis loin de mon épouse, que je ressente en moi un manque, que je sois triste. Et au contraire, lorsque je suis à ses côtés, alors c'est la joie. Et donc, apprenons à vivre plus que jamais dans la joie au sein du couple. Et l'autre lettre, c'est quoi? C'est la lettre G, la grâce. La grâce. Il faut, n'est-ce pas, vous ouvrir à la grâce. La grâce qui vous est donnée par Dieu. Parce que dans la vie de couple, il y aura, n'est-ce pas, des difficultés, il y aura des épreuves difficiles à supporter. De vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez donc besoin plus que jamais de la grâce et surtout de la force de Dieu. Le couple est donc plus que jamais appelé à s'ouvrir à cette grâce, à cette force que Dieu donne pour tenir bon malgré les difficultés, malgré les épreuves, pour arriver au bout. Et la dernière lettre, c'est quoi? C'est le E. Le E qui nous renvoie ici à l'espérance. Il faut toujours être ouvert à l'espérance. C'est-à-dire que si les choses ne vont pas bien aujourd'hui, demain sûrement les choses iront mieux. Demain, mon conjoint comprendra la remarque que je lui ai faite aujourd'hui. Demain, l'autre s'amendera, même s'il ne le fait pas aujourd'hui. Même si elle ne le fait pas aujourd'hui, je garde la ferme espérance que demain sera meilleur. Et c'est la même espérance qui nous fera tous entrer dans l'éternité. Et si donc nous appliquons ces colonnes, si nous mettons en pratique tout ce que nous recommandent ces lettres, eh bien, on verra qu'on ne va jamais s'ennuyer au sein du couple, on ne va jamais s'ennuyer dans le mariage, et le mariage en lui-même ne connaîtra jamais de rides, ne connaîtra jamais la vieillesse. Et donc, pour terminer, sœurs et frères, optons, n'est-ce pas, pour la suite du Seigneur. Choisissons de demeurer avec le Seigneur, choisissons d'être avec lui, choisissons d'écouter sa parole, pas seulement de l'écouter, de la mettre en pratique, parce qu'au terme de tout cela, nous aurons plus que jamais la vie éternelle.